Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
OVNI, extraterrestre, vie hors du système solaire, qui n'a pas eu un jour un petit pincement au cœur et l'envie tremblante de croire au moins quelques instants qu'il y existe et qu'il n'est peut-être pas si gentil que cela. Au-delà du sensationnel et du goût que l'on peut avoir de se faire peur, des hommes et des femmes de tous âges et conditions sociales observent chaque année des choses étranges dans le ciel, et ce, même en France. Pour répondre à leurs interrogations et parfois même aux angoisses de ces Français, le Centre National d'Études Spatiales, CNES, a créé un service spécialisé dans l'étude de tous ces phénomènes, un service des plus sérieux, qui classe un à un ces témoignages souvent facilement explicables, souvent, mais pas toujours. OVNI, le vrai du faux, c'est le thème donc de l'émission Vivante Église de ce vendredi matin. Voilà, le vendredi, on s'offre des récréations dans cette émission, une récréation fort sérieuse. Je ne dis pas du tout ça pour vous dénigrer. Jean-Paul Agut, vous êtes notre invité. Vous êtes l'ancien responsable du GIPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, donc du CNES. Je disais en introduction, pour ceux qui ne connaissent pas le CNES, Centre National d'Études Spatiales, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Merci beaucoup d'avoir fait un détour par nos studios. J'imagine bien qu'on doit souvent vous solliciter et souvent pour vous tirer les vers du nez et vous faire raconter ce que vous n'avez pas envie de raconter. J'ai bien senti en préparant l'émission les quelques réserves que vous pouviez avoir, et on peut imaginer qu'elles sont fondées. On va essayer de pas trop vous bousculer, surtout de vous écouter. On va prendre le temps, je le dis par pédagogie, pour les auditeurs, pour ceux qui seraient pressés d'avoir le résultat avant le développement, dans la première partie, de découvrir un peu ce qu'est le GIPAN, ce qui fait votre travail, les grandes généralités, puis après on parlera des cas identifiés et des cas non identifiés. Je commencerai peut-être par une question de vocabulaire. J'ai dit OVNI en introduction, d'autres parlent d'extraterrestres. Vous avez une expression, donc une terminologie au sein de votre organisme, vous appelez ça des PAN pour phénomènes aérospatiaux non identifiés. Quel est le bon terme, Jean-Paul Agut?
Alors, tout d'abord, par rapport à votre introduction, je voudrais dire que le GIPAN et moi-même n'avons rien à cacher. Il se trouve que parmi vos collègues, certains cherche à travers des interviews du GIPAN à faire dire au GIPAN par des détours, des fois c'est pas très honnête, à faire dire des choses qui ne sont pas vraies sur la réalité des extraterrestres ou des choses de ce type-là. Donc effectivement, en commençant, on va utiliser le mot OVNI. Et en essayant de...
Donc OVNI, c'est objet volant non identifié.
En essayant d'identifier ce mot et déjà de comprendre les ambiguïtés que porte ce mot et combien il est porteur de sensationnel par lui-même. OVNI veut dire objet volant non identifié.
Et c'est une expression quelque part labellisée, elle a un début si j'ai bien compris.
Elle a un début, tout à fait. Alors, dans le non identifié, le mot répond à sa mission, il traduit quelque chose qui est étrange, qu'on ne comprend pas. Alors, le seul problème avec OVNI, c'est un gros problème, c'est qu'en même temps qu'il pose bien la notion d'étrangeté, il donne une réponse prématurée. En ce sens qu'il dit objet. Beaucoup d'étrangetés dans le ciel s'avèrent in fine ne pas être des objets. Dans ce sens-là qu'on préfère parler de phénomène. C'est un terme qui est beaucoup plus englobant de la réalité de la chose.
Donc phénomène, c'est les ponts. Hein. Phénomène aérospatiaux non identifiés.
Voilà. Et nous parlons de phénomène aérospatiaux non identifiés plutôt qu'OVNI.
Est-ce que non identifié, c'est pas aussi un piège quelque part? Parce qu'on part du principe que la seule chose qui est intéressante, c'est ceux qu'on n'arrive pas à identifier.
Alors, bien sûr, dans non identifié, in fine, ça donne de l'intérêt, et c'est normal, puisque finalement, c'est des choses qui échappent à la connaissance. C'est tout à fait logique que ça génère de l'intérêt pour les scientifiques qui ont un intérêt pour la compréhension des phénomènes, ou que ce soit pour les gens qui sont friands de mystères, d'énigmes, y compris aussi pour les personnes qui voient à travers ce terme non identifié une argumentation, une confirmation de thèse, dont celle extraterrestre. Donc finalement, c'est un terme qui crée de l'attraction.
Alors, dites-nous.
Je reviens simplement sur le mot OVNI.
Oui. Dites-nous peut-être OVNI, quand elle a été utilisée pour la première fois, cette expression.
Voilà. Le mot OVNI, son double problème, c'est d'une part, il est restrictif, il donne une réponse un petit peu à travers le mot objet, qui est une réponse qui serait que restrictive, et d'autre part, il a pris une connotation extraterrestre au cours du temps. En fait, l'étrangeté dans le ciel, elle existe depuis toujours. Depuis tout le temps, nous avons des traces de dessins dans les grottes. 3000 ans avant Jésus-Christ, en Australie, nous avons des fresques dans les monastères au Kosovo, au Moyen-Âge, et ainsi de suite. Les descriptions d'étrangeté faites par l'homme, faites par l'humain, les descriptions de ce qu'il trouve étrange dans le ciel ne manquent pas.
Alors, si vous permettez, du coup, je réponds à ma propre question, hein, juste pour accompagner votre propos. Donc, en juin 1947, aux États-Unis, un certain Kenneth Arnold, à bord de son avion privé, aperçoit la formation de 9 objets se déplaçant à la vitesse de jet, comme des disques ricochant sur l'eau. Et derrière, un journaliste de la Associated Press donc, a parlé de soucoupe volante. Alors, maintenant, les bases étant posées des termes, j'imagine qu'on utilisera le mot pan, on expliquera au fur et à mesure de l'émission ce qu'il signifie. Présentez-nous ce GP. Qui est donc extrêmement sérieux. Il travaille, j'ai cru comprendre, c'est 2 personnes et demie, c'est ça ?
Alors, je vais peut-être donner quelques exemples pour un petit peu mieux situer ce qu'il fait. Voilà, vous avez, par exemple, je pense à cette dame qui, il est 19h, le soleil vient de la nuit vient de tomber, le ciel est étoilé, elle est avec ses enfants dans la voiture, ça se passe pas loin de Deauville. Et elle voit des feux lumineux au-dessus de l'église, une série de lumières très fortes qui ne bougent pas. Et ça fait comme un vaisseau qui est au-dessus de l'église. Et puis au bout d'un moment, tout ça s'en va, fuit vers le nord. Et puis cette dame ne dort pas, la nuit qui suit, elle ne dort pas bien. Ses enfants même vont dormir dans le lit des parents, tellement ils sont effrayés aussi. Le lendemain, elle en parle à son mari, puis à un gendarme, et puis finalement, elle va à la gendarmerie pour déposer. Une enquête est mise en place. Et puis, un autre garçon, qui a vu des choses similaires, qui ne voulait pas témoigner, apprend que l'enquête est en place, et finalement, il dépasse ses appréhensions, parce qu'il a peur d'être pris pour un fou. Et il va aussi parler de ces lumières. Ces lumières, en fait, très longtemps, on n'a pas pu les comprendre. Aujourd'hui, on est en mesure de les expliquer par des reflets dans le ciel de projecteurs laser, moyennant des phénomènes complexes. Peut-être que je reviendrai plus tard. C'est un exemple qui déjà donne un petit peu le degré d'émotion. Je peux en donner un deuxième. Une dame, en fin de journée, très chaude, trouve la chose est agréable, c'est normal, ça s'allonge dans sa chaise longue, et puis voit surgir derrière son hangar, au-dessus de son hangar, une boule lumineuse, très brillante.
Quelle taille ? Enfin, à peu près, c'est un ballon de foot ou on sait pas ?
Un ballon de foot, mais comme elle évolue vers elle, au bout d'un moment, c'est très gros. Et puis, ça donne l'impression de venir vers 2 ou 3 mètres. Et puis ça circule, et puis finalement elle s'en va, cette boule. Le lendemain, elle ne dort pas bien non plus. Le lendemain, elle essaye de voir la même chose, et la chose ne se produit pas. Là, par exemple, dans ce cas-là, il s'agit d'une foudre. C'est une foudre, mais d'être une foudre qui tombe du ciel, des nuages vers le sol, est une foudre en boule. Alors, ces exemples-là témoignent de l'étrangeté, d'une part, et puis de l'émotion que peuvent vivre les témoins.
Alors je vous repose ma question. Le GEIPAN, donc on imagine de fil en aiguille, et par exemple parfois par la gendarmerie, ils finissent par arriver au GEIPAN. Présentez-nous donc ce...
Au début d'une intervention du GEIPAN, c'était ça le sens de mon introduction. Au début d'une intervention du GEIPAN, nous
1970,
avons toujours des témoins qui ont vu quelque chose d'extraordinaire. Et c'est l'extraordinaire d'un jour. Ils viennent témoigner... rendre compte de cet extraordinaire, ils nous le confient. Ce n'est pas simple pour eux, les exemples que j'ai signalés tout à l'heure le montrent. Des fois, ils hésitent, ils n'osent pas, ils ont peur d'être pris pour un fou, donc il y a un acte de confiance. Ils témoignent de cet extraordinaire. Et le GEIPAN, son rôle, c'est donc d'expliquer l'étrangeté, donner une explication à cette étrangeté, une explication qui peut rendre compte de toute l'étrangeté vécue par le témoin. Il ne suffira pas de dire à un témoin, finalement, on sait que ce que vous avez vu, c'est... c'est une projection laser. Il faudrait quand même expliquer comment ça peut faire ces boules au-dessus de l'église, pour revenir à l'exemple tout à l'heure. Le témoin donc a été créé en 70, parce qu'avant, le GEPAN a été créé en 70, dans les années 70, parce qu'avant, ces mêmes témoins se rendaient dans les gendarmeries. Et les gendarmes devaient faire une enquête, brigade par brigade. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais sans aucune méthode unifiée et sans possibilité de capitaliser toutes ces données pour les regrouper et essayer de mieux comprendre.
Combien est-ce que vous êtes à travailler dans ce service et qui travaillez-vous ?
On est deux. Alors, ceci a été créé dans les années 70. Le GEPAN a cette mission-là, d'expliquer. Il est resté une petite structure. Aujourd'hui, nous sommes deux agents du CNES, avec quelques forces, deux autres personnes en sous-traitance qui en support, si vous voulez. Ça fait une petite structure, mais pérenne, depuis 40 ans.
Mais vous ne travaillez pas tout seul, donc vous travaillez avec la gendarmerie. Qui sont vos collaborateurs indirects?
L'important, effectivement, c'est qu'on soit pérenne. Quand même, on est assez peu nombreux, mais surtout on est pérenne. Et surtout, on travaille avec... on ne travaille pas seul. On travaille avec les gendarmes, qui nous faisons les enquêtes, mais ils ont gardé la mission de recevoir les témoins. Les témoins aujourd'hui peuvent se rendre dans les gendarmeries et peuvent se rendre directement au GEPAN via son site internet.
Alors j'ai vu que vous aviez eu donc 8000 témoignages depuis sa création, environ 3000 cas d'observation ai-je lu, 34% des observations sont inexploitables, 4% environ des observations restent inexpliquées. Qu'est-ce que vous donneriez comme grand ordre de grandeur? Il y a 600 contacts par an aussi. Présentez-nous, les grands axes. Combien de temps vous passez on sait à peu près combien de temps vous passez sur chaque cas. On imagine que c'est pas.
Alors
pas simple. Il y a une moyenne ou.
Alors le GEPAN rend en fait aujourd'hui depuis 40 ans nous avons reçu 9000 témoignages qui correspondent à peu près à 3000 observations. Sachant qu'une observation peut avoir plusieurs témoins, c'est pour s'expliquer la différence entre les deux chiffres. Et nous avons, sur ces 9000 témoignages, aujourd'hui, nous avons un taux de témoignages qui sont non exploitables, c'est-à-dire que l'information n'est pas suffisante pour pouvoir les traiter, à peu près 30%. Et le reste est donc classé, soit en témoignages dont on a trouvé une explication, et témoignages pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication. Aujourd'hui, les témoignages dits non identifiés, sans explication, c'est un chiffre faible, puisque c'est 3%.
Jean-Paul Agut, est-ce que vous pouvez nous dire le profil des témoins aussi? À vous lire, tout le monde en fait peut voir des choses étranges dans le ciel. C'est tout niveau d'études, toute classe sociale,
oui,
toute éducation.
C'est un point important. Le témoin, c'est vous, c'est moi, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ça peut être l'homme qui travaille, la personne qui travaille dans les champs toute l'année, mais ça peut être aussi l'ingénieur qui sera dans son travail, ça peut être le pilote, le médecin, ça peut être tout le monde. C'est un fait. Les questions en jeu, les problématiques en jeu sont relativement communes à tout le monde.
Comment vous êtes arrivé à ce métier, peut-être pour finir, avant qu'on fasse une... À ce métier, à ce poste. Alors, vous l'avez quitté donc, et vous avez un successeur.
Oui.
Vous l'avez quitté, je crois, fort récemment. Mais bon, peu importe. On imagine qu'on n'arrive pas quand même tout à fait par hasard à ce type de travail.
D'abord, j'avais connaissance de l'existence de ce service et de sa mission. Je savais que c'était un terrain d'expertise. Je suis moi-même ingénieur. Ma carrière d'ingénieur au CNES, c'est une carrière où l'expertise est très importante, joue un rôle important. Au début de carrière, c'est surtout son expertise qu'on apporte, et en développement de carrière, on manage l'expertise des autres. Donc je suis passé par ces différentes phases, à travers la construction de projets, d'instruments, développement de grandes études. Je savais que ce service-là maniait l'expertise. Donc pour moi, c'était une façon, un autre terrain pour, quelque sorte, développer des problématiques d'expertise, de méthodologie, de rationalité. Mais je savais aussi qu'il y avait une particularité très intéressante, c'est que le client final, l'utilisateur final, c'était monsieur, madame, tout le monde. Et là, c'est un peu différent dans une trajectoire d'ingénieur. On n'a pas toujours cette situation-là. On fait des satellites pour l'institutionnel, pour les scientifiques. Et là, il s'agissait de livrer une expertise qui serve à monsieur, madame, tout le monde. Donc, je considérais un moment de ma carrière, je l'avais repéré, ce poste. Mais je savais que ce poste-là m'intéresserait. Et quand une opportunité s'est présentée, J'ai donc candidaté pour entrer dans cette fonction et j'avoue que ça a été une grande expérience, tant sur le plan technique et opérationnel, mais là il y a beaucoup de similitudes avec d'autres activités au CNES, mais surtout par la richesse humaine, le fait qu'on traite des questions et des questions qui touchent tout, monsieur et madame tout le monde, et on met en jeu des disciplines qui ne sont pas que disciplines d'ordre physique, il y a beaucoup de disciplines qui sont autour de la psychologie.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver. On aurait pu citer un autre phénomène donc étrange observé dans le ciel. C'est le titre d'un article qu'on trouve sur le site du GEPAN. C'était un article en date du 14 novembre dernier. Le 11 novembre a été observé dans le ciel par plusieurs personnes un étrange phénomène. Et puis donc, petit à petit, vous avez trouvé l'explication. Je le dis très brièvement, hein, ça demanderait plus de développement. C'était en tout cas quelque chose qui était en lien avec la fusée Falcon 9 de la société américaine SpaceX. On fait une première pause et on vous retrouve. On va parler des cas identifiés. Vous allez prendre un exemple et vous allez nous expliquer votre méthodologie et les difficultés que vous pouvez rencontrer.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
OVNI, le vrai du faux, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec comme invité Jean-Paul Agut, ancien responsable du GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, ce service qui existe donc au sein du CNES, le CNES, Centre National d'Études Spatiales. Jean-Paul Agut, alors on s'est dit donc dans cette deuxième partie, vous allez nous parler donc des cas identifiés. Est-ce que vous pourriez tout simplement commencer par prendre un exemple, nous raconter une histoire vécue?
Oui, eh bien écoutez, je vais prendre en compte par exemple les trajectoires de satellites qui rentrent dans l'atmosphère. Alors là, en général, le témoin, face à cette situation-là, voit une grande lumière dans le ciel qui passe très vite, qui peut faire la nuit, elle peut faire vraiment éclairer toute la voûte céleste. Et ça dure très peu de temps.
C'est-à-dire, ça ressemble quoi, à une étoile filante
ou... Ça ressemble à une grosse étoile filante avec un grand panache derrière. Alors, ça peut être un satellite qui fait sa rentrée atmosphérique ou une fusée. Il y a d'ailleurs eu un exemple en novembre. Nous avons aussi la rentrée de ce qu'on appelle les rentrées de météorites, qui pour le coup sont bien des objets extraterrestres, sont des objets rocheux qui sont dans le système solaire et qui gravitent dans le système solaire et que quelques-uns, des fois des petits, Dieu merci, rencontrent la Terre et sont freinés par l'atmosphère. Et grâce à l'atmosphère d'ailleurs, ils sont consumés, qui fait qu'il ne crée pas trop de dégâts. Et, mais l'atmosphère, au passage de l'atmosphère, ils sont carbonisés, brûlés, et ça fait ce panache-là. Et les objets, les satellites et les fusées, c'est un peu pareil. Quand ils rentrent dans l'atmosphère, ils font un peu ce panache-là. Et donc les témoins face à cela, qui n'ont jamais vu la chose, sont extrêmement surpris. C'est un type de d'observation où, si vous voulez, la source même de l'observation, elle est étrange, elle est unique, on n'a pas l'habitude de la voir. Pour autant, nous avons des témoignages où, au bout du compte, lorsqu'on a terminé l'enquête...
Alors juste sur la méthode, donc ils arrivent à un moment forcément à vous. Est-ce que vous rencontrez à chaque fois ces personnes où il y a un premier élagage, on va dire, de tout ce qui pourrait être...
Oui, vous avez raison. Nous avons beaucoup de... Nous avons en fait 600 contacts par an. Les deux tiers de ces contacts peuvent être traités directement au téléphone ou par quelques échanges de mails, parce que ce sont des choses relativement usuelles. Après, nous avons, sur les 200 autres, on considère qu'il faut ouvrir une enquête, parce qu'on ne trouve pas de manière évidente. Et aujourd'hui, grâce aux outils numériques, au début du GEPAN, chaque enquête donnait lieu quasiment à... aurait dû nécessiter un déplacement quand c'était possible, c'est-à-dire rencontrer le témoin. Les ressources ne permettent pas de rencontrer tous les témoins, mais Dieu merci, aujourd'hui, avec les outils numériques, nous avons la possibilité d'aller chez le témoin de manière virtuelle. On a la possibilité de savoir effectivement comment était orientée la fenêtre par laquelle le témoin a vu le pan, quelle était la direction du vent, quels étaient les objets qui transitaient dans le ciel, qu'ils soient des satellites ou des avions. Nous avons énormément de possibilités avec les outils numériques pour comprendre ce qui s'est passé dans les lieux. Néanmoins, à peu près un cas sur 10, donc 20 à 30 cas par an, en gros, nous rendons chez le témoin. C'est un moment intense.
Donc là, en fait, vous vous dites, c'est un cas plus compliqué, et là, vous partez pour...
plus compliqué,
pour
en
une
tout
rencontre
cas,
ou pour une observation cas, terrain, c'est ça?
Ce sont des cas qui, on sent que l'information, soit on sent que ça se passe à travers les éléments que nous a envoyé le témoin commence toujours par nous envoyer un questionnaire. À travers les éléments, on sent qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus près, assez proche de l'environnement, c'est pas quelque chose qui est très loin dans le ciel, auquel cas il faut comprendre localement ce qui s'est passé. Soit c'est que on n'arrive pas à distance à comprendre, on a quelques hypothèses, elles collent pas, il y a des éléments qui ne correspondent pas, et on pense qu'il est bon de reprendre le film tranquillement avec le témoin. Alors et quand avez... on dit tranquillement, c'est le maître mot. Tranquillement, on a des témoins qui ont été perturbés, qui ont mal dormi, qui vivent déjà mal ça la chose. Il faut les mettre dans une condition telle qu'ils vont le plus facilement possible nous redécrire les choses et peut-être qu'on va apprendre des éléments nouveaux.
Alors vous avez une classification, hein, je vu, donc A, B, C, D, il y a aussi D1 et D2, donc ça dit un peu les classements, si j'ai bien compris on y reviendra peut-être sur cette classification. Vous laissez entendre, et c'est ce qu'on sent que c'est ce qui vous a intéressé aussi dans ce travail, c'est que donc vous êtes, comme vous disiez, en prise directe avec le grand public. On imagine que quand vous rencontrez un témoin comme ça, alors, il ne faut peut-être pas avoir fait 5 ans de psychologie pour arriver à accompagner ces personnes, mais est-ce que certaines personnes vous accueillent en vous disant « mais j'ai peur qu'on me prenne pour un fou » oui. Comment vous gérez ça? Vous y allez avec un psychologue parfois ou le psychologue passe avant vous?
C'est un domaine pour lequel on a besoin d'être formé. Effectivement, on travaille avec des psychologues qui eux-mêmes travaillent sur la question du témoignage, une question qui est bien plus large que celle dont on parle aujourd'hui pour les pas, le témoignage judiciaire, le témoignage dans les domaines d'assurance, des accidents. Et la question est toujours la même, c'est comment, à partir d'un récit, dans des contextes plus ou moins compliqués, vécus par des gens, vécus par des témoins, comment, à partir d'un récit, on revient aux faits. Et là, en l'occurrence, le récit peut être fou, peut sembler être fou. C'est effectivement quelque chose qui fait que le témoin lui-même a une appréhension à témoigner lui-même et peut l'avoir à nous recevoir. C'est un acte de confiance vis-à-vis du GEPAN, c'est qu'effectivement ce qu'il dit peut être des fois perçu comme extrêmement étrange, on peut ne pas le croire, donc effectivement c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et un des premiers éléments c'est de le rassurer là-dessus, à cette question-là.
C'est-à-dire, vous n'êtes pas le premier qu'on rencontre, rassurez-vous,
voilà,
ça va bien finir.
D'autre part, un point important, c'est que nous garantissons l'anonymat. La structure même du GEPAN, qui est une structure institutionnelle, j'ai pas eu l'occasion de parler du comité de pilotage, mais on rencontre un comité de surveillance qui est même formé de la Défense nationale, de la gendarmerie, de la météorologie, de l'aviation civile, enfin, des entités sont parties prenantes quelque part, et qui en même temps surveillent, vérifient qu'on fait un travail rationnel et de nature scientifique. Donc, cette structure-là, mais on peut mettre en confiance les témoins. Et nous-mêmes, sur le terrain, il faut qu'on soit très prudent. En gros, ce qu'il ne faut pas faire, le pire qu'on pourrait faire, c'est de poser des questions de manière abrupte, rapidement. Un bon passage chez un témoin, c'est un témoin où on met le témoin, il est mis en condition telle qu'il permet, qu'il reprend tout ce qui lui est arrivé et qui nous permet de redécouvrir des choses qu'on n'avait pas déjà dans le questionnaire.
Alors, est-ce que, on imagine que derrière, vous avez une méthodologie. Quelles sont les grandes lignes de cette méthodologie? J'ai cru comprendre aussi à vous lire brièvement que il faut avec subtilité faire le tri entre ce qu'on observe, ce que la personne a pu rajouter. On peut imaginer peut-être aussi, peut-être un peu aussi
oui,
l'humeur et les conditions.
La personne, quand vous dites que la personne rajoute, il peut qu'elle rajoute de manière consciente. En réalité, si elle rajoute IA, il est inconscient. Il échappe à la personne elle-même. Dans une observation, il y a des mécanismes... D'abord, il y a tous les mécanismes physiques qui ont rendu la chose compliquée. Ça, c'est pas du domaine témoin. Les phénomènes de rayons qui sont courbés, des mirages, des problèmes de propagation, des nuages qui cachent les lunes, qui les rendent étranges, ainsi de suite. Ça, c'est du domaine physique.
Après, vous dites qu'il y a aussi toutes les erreurs de perception.
Mais après, on rentre. Il y a des domaines de facteurs
humains.
Défauts
de vision.
Voilà, il y a des domaines de facteurs humains. Les domaines de facteurs humains, ils sont complexes. Il y en a qui sont de nature purement physiologique, ce qu'on appelle le fait que c'est l'autocinétique, le fait que l'œil il tremble en permanence. Il peut renvoyer au cerveau des images d'un point lumineux qui tremble. En réalité, il ne tremble pas, c'est une étoile, mais le fait qu'il est rendu au cerveau comme tremblant, ça rend l'étoile étrange. Et il y a des phénomènes qui sont vraiment l'interaction fine entre la perception et le cerveau. Quand immédiatement se créent des reconstitutions de distance, par exemple. Le témoin qui fasse quelque chose qu'il ne comprend pas, il rentre dans des mécanismes mentaux qui peuvent lui jouer des tours. Mais à tout le monde, tous les témoins.
Par exemple,
le premier tour, c'est la distance. C'est vraiment celui qu'il faut écrire en lettres d'or dans notre métier. Le témoin évalue une distance. Et on ne peut pas évaluer la distance d'un objet que l'on ne connaît pas. Nos yeux, ils évaluent une distance, les yeux, mais par l'effet stéréoscopique. Mais ça ne porte qu'à 20 mètres. Des objets qui sont beaucoup plus loin, on ne peut pas évaluer la distance dès lors que l'on ne connaît pas ces objets. Nos yeux ne sont que des capteurs angulaires, un peu comme des pixels de caméra. Et pour autant, le témoin s'acharne à évaluer une distance. Et cette distance est toujours erronée. Et c'est vrai pour tout témoin, mais y compris pour un pilote ou un astronome. Et à partir du moment où la distance est erronée, l'évaluation de vitesse aussi, et d'accélération aussi. C'est en ce sens-là que le témoin se trouve des fois avec des idées d'accélération fulgurante, parce qu'il évalue une distance, et donc s'il évalue une distance très loin, un déplacement angulaire important crée une accélération fulgurante. Et donc se créent ainsi des mécanismes d'étrangeté, c'est assez rapide, ces mécanismes-là. Au moment de l'observation, il y a des mécanismes très rapides, qui contribuent déjà à une pointe d'étrangeté au départ, parce qu'il n'a pas reconnu, et puis ces mécanismes-là peuvent surajouter de l'étrangeté, l'émotion étant lui-même un facteur d'avalanche, hein. Et puis, nous voyons le témoin quelques semaines après. Entre-temps, il a essayé d'interpréter.
Il a fait avec ce qu'il était, avec son histoire.
Il a pu aller chercher sur Internet.
Alors, il y a, semble-t-il, deux notions qui sont importantes pour l'évaluation. En tout cas, vous utilisez l'étrangeté et la consistance. Expliquez-nous.
Alors, notre travail, c'est donc de formuler une ou plusieurs hypothèses.
Si vous pouvez le faire en reprenant les exemples que vous citiez au début.
Tout à fait. Prenez une formule.
L'étrangeté et consistance.
Formulez une ou plusieurs hypothèses pour rendre compte de ce qui s'est passé. Le cas de la foudre en boule, c'est relativement simple, parce que finalement, c'est le phénomène source lui-même qui est étranger.
Alors, redites en deux mots
je reviens sur le cas de cette dame qui se met sur sa chaise longue et qui voit une boule blanche surgir derrière le hangar et venir la perturber de manière très proche, même à un moment donné. C'est une foudre en boule. Le phénomène physique, il est connu, nous le connaissons, peu de gens le connaissent. Là, on cible cette expertise-là, on vérifie que toutes les conditions de production sont bien là, à savoir un contexte orageux, des conditions météorologiques, en quelque sorte. Voilà, c'est relativement simple dans ce cas-là.
Alors là, le critère étrangeté, c'est quoi?
Le critère étrangeté,
est-ce que
c'est
ça se rapproche ou pas de quelque chose qu'on connaît?
La probabilité qu'elle ait été là, cette foudre en boule, parce qu'on n'a pas la preuve. Si tous les éléments qui favorisent la production de cette foudre en boule sont présents, la probabilité, quand bien même on n'a pas la preuve, parce que personne ne l'a observé, d'autre, on n'a pas une preuve, il n'y a pas une trace. On considère que la probabilité est quand même forte, quand bien même nous n'aurions pas la preuve. Et là, nous avons donc un phénomène qui est peu étrange, car la probabilité de l'hypothèse que l'on met en place est forte. En gros, mathématiquement, on peut dire que l'étrangeté, c'est le complément à 1 de la probabilité. Si le phénomène, l'hypothèse que l'on formule, après avoir regardé l'ensemble des paramètres dont on dispose, le témoignage, les phénomènes, les paramètres externes, la météo, l'emplacement des avions, ainsi de suite. Avec tout cela, quand on formule une hypothèse, donc la probabilité, mettons 90%, mais ça veut dire que l'étrangeté est 10%, c'est faible. Mais d'autre côté, lorsqu'on formule des hypothèses qui ont une probabilité très faible, parce qu'il y a énormément de choses qui sont peu fiables, qui sont peu probables, et que dans ce cas-là, la probabilité est inférieure à 50%, on préfère dire que l'on ne sait pas ce que c'est. Et dans ce cas-là, on est dans des étrangetés qui commencent à être fortes.
Alors, quelle est la différence avec la consistance ? Alors, prime abord, on peut dire que c'est la même chose, non ?
Ah non, la consistance, c'est un autre domaine. Ben, je peux vous donner un exemple pour illustrer la chose. Il est plutôt fictif, celui-là. Imaginons, par exemple, qu'un témoin m'appelle, venez vite, je crois que j'ai vu une soucoupe volante, venez démonter la place, on va le voir. Et puis on pose des questions, il nous décrit une soucoupe volante, et puis on pose des questions, et puis très vite, le témoin nous dit, attendez, je ne peux pas vous répondre, parce que ça m'est arrivé, c'était sur ma mobilette, je l'ai vu dans le rétroviseur, c'était de nuit, je l'ai vu dans le rétroviseur, c'était à la sortie d'un virage, il y avait un camion derrière qui m'éblouissait. Immédiatement, on va se dire, mais ce témoin-là ne peut pas nous donner beaucoup d'informations. Il ne peut pas y avoir beaucoup d'informations. Le même témoin, maintenant, qui nous prend son temps, il a vu la fameuse soucoupe pendant 20 minutes, il nous a décrit en long et en large, on dira qu'il nous a amené beaucoup d'informations. Donc, c'est la différence. Ce même témoin, même encore, on le revoit, il nous donne des éléments différents, il se contredit, et puis on apprend qu'il en voit tous les jours. Là, on se dira, il y a de l'information, mais cette information n'est pas fiable. Donc la consistance, c'est le degré d'information et le degré de fiabilité attaché à cette information. Et il faut qu'une consistance soit forte. Notre principe de base est un principe de bon sens. Un témoignage qui traduit de l'étrangeté, c'est-à-dire qui traduit quelque chose d'assez extraordinaire, doit être accompagné d'une consistance forte.
Jean-Paul Agut, vous avez une expression, les sciences physiques peuvent trouver un enjeu avant tout dans les cas inexpliqués, peut-être qu'on y reviendra après, tandis que les sciences humaines le trouvent tout autant, sinon plus, dans les cas expliqués. Alors pourquoi les sciences humaines, en fait, seraient, à vous lire, hein, je le traduis avec mes mots, très utiles pour tous les cas expliqués?
Alors, la différence qu'il y a entre un cas expliqué et un cas expliqué et inexpliqué, c'est basique, c'est que, par définition, c'est que le cas expliqué, nous avons le témoignage humain, et nous avons l'explication.
Mais vous faites quand même appel à toutes les sciences physiques et autres.
Bien sûr.
Mais les sciences humaines ont une place plus importante.
Le témoignage, un cas expliqué, peut être un cas expliqué après un grand nombre de prises en compte de facteurs physiques très compliqués qui s'additionnent et qui rendent toute la complexité de la chose. Hein. Le cas de la foire d'Embrun est un cas simple parce qu'il n'y avait qu'un seul facteur, mais très souvent il y a un agencement de facteurs, des problématiques de propagation, le mirage optique, ainsi de suite, météo et autres. D'éclairage du soleil, de la lune, enfin bon, un certain nombre de facteurs qui fait que cette chaîne de facteurs physiques peut être expliquée. Il y a aussi des facteurs humains qui interviennent. La différence, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y a des facteurs humains, ces facteurs humains, on les éclaire. Parce qu'au bout du compte, on a l'explication et on a la perception qu'a eue le témoin. Et entre les deux, on isole un peu plus l'ensemble des facteurs qui sont humains. Et ces facteurs sont, pour certains, sont bien connus. Dans d'autres cas, on les découvre un peu mieux. Et nous, ces psychologues, ils sont là à côté de nous pour mettre l'éclairage sur ce qui est connu et puis également pour apprendre un peu plus de ce qui n'est pas connu. Et sur le domaine du facteur humain, il y a beaucoup à apprendre.
Alors Jean-Paul Agut, une dernière question avant qu'on fasse une deuxième pause et après on se lancera donc dans les cas inexpliqués qui peut-être attisent un peu plus notre curiosité à tous. J'ai cru comprendre aussi que parfois les plus coriaces sont ceux qui sont un peu du métier, qui ont des formations scientifiques assez poussées et qui parfois contestent en fait vos conclusions. Vous avez des recours contre le GEPAN, ça existe ?
Oui, tout à fait, oui.
Est-ce que vous nous parlez de ça ? Vous avez des casse-pieds, entre guillemets ?
Alors, nous avons des recours de témoins qui n'adhèrent pas à la conclusion.
Et c'est parfois les plus diplômés, les plus savants qui sont
oui,
les plus...
Oui, alors, un témoin qui a beaucoup... qui a une perception... qui a eu un travail en particulier scientifique, par exemple, ou dans des logiques opérationnelles où le visuel a beaucoup d'importance, a un peu plus de mal à admettre que...
Qui s'est trompé.
A fait se tromper. En tout cas,
que l'explication qu'on lui porte.
Alors, à nous de savoir bien le convaincre. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, c'est des fois un peu plus difficile.
Allez, Jean-Paul Agut, on fait une deuxième pause et on vous retrouve pour cette émission. Donc sur, je vais être courtois, je vais pas appeler ça les ovnis, donc les PAN, ces phénomènes aérospatiaux non identifiés.
Emmanuel Pella.
OVNI, le vrai du faux, ou PAN, phénomène aérospatiaux non identifié, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi. On prend un petit peu de hauteur et nous accompagne Jean-Paul Agut, ancien responsable du GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés du CNES, Centre National d'Études Spatiales. Pas de surprise pour vous. Dernière partie, les cas non identifiés. Même chose, est-ce que vous pouvez prendre un exemple? Alors, au risque de faire un peu mon journaliste, est-ce que vous pouvez prendre les exemples qui vous ont peut-être le plus frappé dans le temps que vous avez passé à exercer cette responsabilité? Pas forcément le plus intéressé, mais le plus frappé.
Alors, si vous voulez, je vais prendre un exemple qui est... Oui, qui est frappant. Et puis peut-être un deuxième qui se trouve à la frontière entre l'inexpliqué et l'expliqué.
Allez-y, commencez par...
Pour montrer qu'en fait, c'est ténu, la différence entre l'un et l'autre. Il y a une similitude avec l'énigme policière. Le cold case, ça tient à peu de choses. Avec un peu de chance ou un petit indice, on arrive à le résoudre. Ou on n'y arrive pas.
Alors commencez par celui qui n'a pas été expliqué.
Nous avons sûrement Moselle, et nous avons deux témoins indépendants. C'est très important par rapport à la consistance dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la source d'information, elle monte en fiabilité.
C'est-à-dire deux personnes qui ne se connaissent pas.
C'est un point important, surtout dans le contexte de cas inexpliqués. Et ces deux témoins sont en voiture, près d'un village en Moselle. Ils sont sur la même route, ils se suivent. Et ils ont vu tous les deux quelque chose qui, dans les questionnaires qu'ils ont fait de manière indépendante, ils ont représenté des ronds verts et rouges. Et on est allé sur place, on a reconstitué, comme on fait chaque fois, ce qui s'est passé. Et la grosse similitude, c'est qu'ils décrivent des trajectoires un peu de même forme, et les points communs sont assez importants.
Alors juste, ils décrivent quoi?
Ils décrivent un objet qui se déplace de manière relativement rapide, mais pas trop. Ça aurait pu être un aéronef, un hélicoptère.
De la taille d'un aéronef ou d'un hélicoptère?
Non, la forme de l'objet, ils n'ont pas vu la forme de l'objet, ils ont vu que le cercle lumineux. Mais ce cercle lumineux-là se déplace. Alors, effectivement, je n'aurais pas dû dire objet parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais en gros, ce phénomène-là se déplace une trajectoire qui peut être celle d'un aéronef, c'est dans le ciel. Et en tout cas, nous n'avons pas pu trouver d'explication. C'est pas un laser qui tape dans le. C'est pas une illumination de laser, de projecteur de boîte de nuit qui tape dans les nuages. C'est pas les drones parce que la dimension angulaire est trop forte pour un drone. Et ainsi de suite. Donc, c'est pas des avions, c'est pas des hélicoptères, parce que quand l'hélicoptère n'est sorti ce jour-là, on n'a pas réussi à comprendre ça. Si vous voulez, pour expliquer cette chose-là, on imagine qu'un hélicoptère sorte et soit dans le noir complet et illumine ses pales, mette une lumière au bord des pales, ça donnerait la même impression. Sauf qu'on comprend pas bien ce qu'un hélicoptère ferait. Et en tout cas, il n'y en a aucun qui est sorti ce soir-là. Donc là, c'est un cas où il y a deux témoins indépendants. Donc c'est consistant, c'est précis. Les témoins, on a tous les éléments, on a tout relevé. On n'a pas compris de quoi il peut s'agir. La seule explication, ce serait un hélicoptère qui s'amuserait à faire ça. Mais c'est pas une hypothèse très forte. Donc alors, on peut pas la retenir.
L'autre exemple qui est à la frontière et qui
est à la frontière, il se trouve qu'il est également aéronautique. Nous l'avons expliqué. Mais il s'en est passé de peu.
Excusez-moi, vous juste vous dites, se trouve qu'il est aéronautique parce
Il est également aéronautique.
Enfin, parce que c'est pas toujours aéronautique.
Vous avez raison. Il se trouve que les hypothèses qu'on peut formuler pour celui-là est aéronautique. Et la meilleure hypothèse qu'on aurait pu mettre en place pour le précédent, mais on ne peut pas la retenir parce qu'elle est trop loin de
d'accord,
la réalité.
Je comprends mieux. Alors allez-y.
Vous avez bien fait. Donc, l'autre hypothèse, nous avons trois témoins dans une voiture, notre cas. Trois témoins dans une voiture, et il y a quatre témoins en tout. Trois témoins dans une voiture et un autre dans une autre voiture plus loin. Et ces trois témoins longent une route bordée d'arbres en pleine nuit. Et à un moment donné, voient. Alors c'est leur mot. Ils disent c'était comme une soucoupe volante stationnaire. Ils disent pas c'est une soucoupe. Ils utilisent le référentiel bien connu de la soucoupe pour bien figurer les choses, comme une soucoupe stationnaire. Et l'autre témoin, lui, il décrit un objet triangulaire se déplaçant très lentement. Ce cas-là, nous avons pu très vite mettre en évidence qu'il s'agissait d'un avion. Un avion assez particulier, un avion militaire, qui est décollé d'Évreux. Et pour autant, comment un avion peut donner l'impression d'une soucoupe stationnaire? Notre travail, c'est pas de dire aux témoins, parce que nous avons la trace radar, parce que la Défense nationale nous donne les traces radar, c'est la convention que nous avons, y compris des objets militaires. Comment un avion peut donc être perçu comme une soucoupe stationnaire et comme un objet, une soucoupe et stationnaire? Donc là, nous avons fait toute la reconstitution, il y a un jeu de mouvement particulier, l'avion vient dans un sens, les témoins vont dans l'autre, la ligne de visée entre les témoins et l'avion n'arrête pas de tourner, il y a un phénomène de point de pivot, cette ligne de visée tourne, elle tourne au point de pivot, tout se passe comme si les témoins allant dans un sens, l'avion venant de l'autre, les témoins perçoivent l'avion immobile. Donc ça, on sait l'expliquer pour la stationnarité. Maintenant, il faut expliquer pourquoi cet avion est une soucoupe lumineuse et sans ailes, finalement. Et là, c'est également des phénomènes qu'on arrive à expliquer. Hein. Ce soir-là, il y a la lune, elle éclaire l'avion, mais elle n'éclaire pas les ailes, parce que les ailes, c'est comme un miroir, c'est où ça réfléchit la lumière, où ça ne la réfléchit pas du tout. Par contre, la carlingue de l'avion réfléchit parfaitement la lumière, et on doit voir un avion sans ailes. En plus, il est très rond, cet avion. Donc, ça fait bien un effet de boule lumineuse éclairée par la lune et stationnaire. Et qui plus est, en plus, le témoin explique que cette soucoupe éclairait, mettait un halo dans les arbres. Et il se trouve que la lune éclaire les arbres aussi. Donc on arrive à expliquer ce qui s'est passé. Et pour l'autre témoin, c'est un peu plus simple. L'étrangeté vécue par ce témoin-là, c'est lié au fait qu'il voit quelque chose qu'il ne reconnaît pas et qui se déplace très lentement. C'est vrai qu'un avion qui vole bas et qui est gros donne une impression de se déplacer lentement. Donc on arrive à expliquer l'étrangeté. Sans que ce que je voulais y venir, c'est que ce cas-là, il aurait pu être beaucoup plus complexe. Il aurait pu virer vers le non-expliqué.
Vers du non-identifié, non-expliqué strict.
Alors, mais pourquoi il aurait pu virer? Vous allez voir, tout est là.
Allez-y rapidement, parce que j'ai encore plein de questions. Il reste
Tout est là. C'est que l'avion aurait pu se trouver un peu plus loin. J'aurais pu ne pas avoir de trace radar. Néanmoins, ça aurait pu être quand même une hypothèse d'avion qui était formulable, parce qu'il y avait l'aéroport d'Evreux dans le coin. Donc j'aurais pu formuler cette hypothèse-là. Mais il se trouve que dans la voiture, le conducteur de la voiture a déclaré qu'il avait arrêté sa voiture. Et s'il avait été seul, ce conducteur, j'aurais pas pu formuler l'hypothèse de stationnarité, parce que sa voiture ne bougeant pas, l'avion bougeant, il ne pouvait pas le percevoir comme stationnaire. Il ne l'a perçu comme stationnaire que parce que la voiture avançait. Donc un seul témoin, à le croire, à l'écouter, on écoute les témoins, on n'arrivait pas à expliquer l'étrangeté. Il se trouve que deux autres témoins ont dit que la voiture ne s'était pas arrêtée. Donc quelque part, c'est bien l'étrangeté, l'émotion, la complexité du témoignage humain qui est là. Un témoin dit qu'il s'est arrêté, les autres témoins disent qu'il ne s'est pas arrêté. Et, donc vous voyez, il manquait une situation à peine différente, pas de trace radar, un avion un peu plus loin de l'aéroport, un seul témoin, un conducteur au lieu de plusieurs témoins. J'avais quelque chose, je ne savais plus rendre compte de l'étrangeté. Et au bout d'un moment, cette même situation, je ne pouvais pas la classer comme expliquée, pouvait être amené à la classer comme inexpliquée.
Alors vous dites
c'est assez ténu la différence.
Vous dites qu'il y a 4% donc environ des observations qui restent inexpliquées. Puis vous avez cette phrase, nombreux sont ceux qui attendent à ce que le GEPAN, donc c'est pour ceux qui par hasard nous rejoindraient maintenant, ce groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés au sein du CNES, et vous ajoutez, mais le GEPAN n'a trouvé aucune trace de leur présence. Alors là en l'occurrence c'est la trace, je parle des présences extraterrestres, donc peut-être j'élargis un petit peu, mais surtout je voulais en revenir à cette phrase. Pour autant, le GEPAN ne formule aucun avis. Ce n'est pas votre travail, en fait, de formuler ou pas un avis sur l'origine, justement, de ce que vous n'arrivez pas à identifier.
À notre travail, c'est de formuler des avis, formuler tous les avis possibles par rapport à l'étrangeté qui nous est présentée, mais avis qui relèvent de la connaissance ou de l'expérience. Par contre, on ne formule pas des sciences hypothétiques pour expliquer un jour ce qui n'est pas explicable aujourd'hui.
Alors, est-ce que parfois, certains cas, vous pouvez peut-être pas répondre, mais vous les transmettez, on va dire, à d'autres parce que ils sont particulièrement délicats ou le fait que vous n'arriviez pas à l'expliquer vous pose problème ou question et du coup là vous passez la patate chaude à quelqu'un d'autre.
Alors notre
dans le fantasme, dans l'imaginaire collectif à ce moment-là, on se dit c'est l'armée et les services spéciaux qui prennent la suite.
Vous voyez, j'avais pas perçu votre question de cette manière-là.
Ce qui va nous permettre de parler après de croyances et des complots.
Notre travail est transparent d'un bout à l'autre. Les témoignages reçus sont, après avoir été anonymisés, sont publiés. Les conclusions que nous formulons, notre travail à nous, il est associé au témoignage reçu. C'est-à-dire qu'il y a la trace du témoin, ce qu'il a amené, les photos qu'il a amenées, tout ce qu'il a amené, et puis notre rapport d'enquête. Et cela vaut pour les cas expliqués comme pour les cas inexpliqués. Dans le cas, la particularité du cas inexpliqué, c'est qu'on n'arrive pas à formuler une conclusion, une explication, mais au moins on s'attache à caractériser au mieux possible tout ce qu'il y a. De manière, au moins faire le travail, si on n'arrive pas à aller au bout du travail d'enquête et d'explication de ce qui s'est passé, l'analyse du témoignage, à savoir bien comprendre ce que le témoin a voulu dire, bien comprendre les mots qu'il a utilisés, toute la partie analyse de matériaux bruts avec le témoignage, on essaye de le faire le mieux possible. Et également, toutes les hypothèses qui ne tiennent pas, parce qu'au bout du compte, il manque quelque chose, on les trace quand même, parce que plus tard, elles peuvent être reprises. C'est comme une enquête policière. Vous prenez un cold case 20 ans après, vous avez le travail des enquêteurs, et un bon cold case, c'est un cas qui a été bien travaillé, qui fait qu'à un moment donné, il peut être repris, et on n'a rien oublié.
Donc, pour répondre à ma question, il n'y a pas le GEPAN, l'équivalent du GEPAN pour les services secrets, quand vous n'arrivez pas à répondre à la question.
Alors, nous, tout ce qu'on a fait, on le met sur notre site internet. Ensuite, si votre question est, y a-t-il quelque part d'autres services qui font leur enquête tout seuls dans leur coin sans passer par le Japon? Ça, je ne le sais pas.
Voilà, vous passez pas un coup de fil à un autre hypothétique service.
Non, qui prendrait... Nous, quand on a fini, on le met sur le site internet.
Alors, justement, pour finir l'émission, est-ce que vous pourriez nous parler, on va dire, croyances et complots? Puisque aujourd'hui, j'ai souvenir de plusieurs émissions où on a parlé du complotisme. On sait que chez les jeunes, ça prend des proportions parfois très, très importantes. J'ai souvenir d'un sondage disant que dans certains lieux, alors je ne vais pas les citer, c'est un tiers de la jeunesse qui adhère plus ou moins à la théorie du complot. Alors derrière ça, on met de multiples choses, parfois aussi des choses qu'on dit sur les journalistes. Voilà, quelle croyance complot on imagine que pour vous, c'est énervant, c'est un peu une peste, on va dire, pour votre travail.
Alors, le mot important, avant de développer le mot complot, c'est la question, finalement, c'est la question extraterrestre. C'est la question extraterrestre. Le GEPAN n'a vu aucune preuve d'éléments extraterrestres. Pour autant, nous avons affaire à des témoins qui pensent que dans l'étrangeté qu'ils ont vécue, il y a une possibilité extraterrestre. Nous ne pouvons pas formuler des éléments là-dessus, nous n'avons rien vu de tel. Et certains témoins ou certains domaines, certains lieux militent pour la thèse extraterrestre. Et cette thèse étant une potentialité tellement énorme en termes de, vous imaginez si extraterrestre débarque, ce que ça représente, qu'associée à cette thèse, l'idée qu'elle est tellement fulgurante et tellement sensationnelle que forcément, ils disent forcément, les gouvernements sont au courant, ils nous cachent des choses. Et c'est en sens ça que le GEPAN est pris dans cela, à savoir... le GEPAN rendrait pas compte de réalités extraterrestres qu'il cacherait parce qu'il dépend du gouvernement, lequel gouvernement ferait tout pour cacher cette réalité. Et voilà. Donc on est dans quelque chose qui est d'une part la croyance à une possibilité extraterrestre, on dit une croyance parce que dans la mesure aujourd'hui on n'a rien qui l'accrédite, et d'autre part une autre forme de croyance qui est que c'est tellement important et tellement disruptif si jamais cela arrive que l'extraterrestre, c'est-à-dire sur Terre, que le gouvernement a pris les devants et le cache. Et là c'est la théorie du complot. Et on doit vivre avec cela, ça fait partie des choses.
On ne pouvait rien faire d'une certaine manière face à ces
croyances.
Surtout
ne rien faire, parce que, par contre, respecter, hein, c'est un point important, nos témoins, l'idée que c'est extraterrestre, on peut le trouver, c'est sous-jacent dans certains témoins, on doit faire avec, on doit respecter, d'autant que la question de base, elle est toute sa noblesse, et je la partage tout à fait, hein, j'ai pas de réponse. C'est qu'est-ce que l'humain face à l'immensité de l'univers? Que faisons-nous tout seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, quoi? La question est là. Mais il se trouve que chez certains témoins, il y a déjà une forme de réponse, et chez d'autres, c'est non seulement une réponse, mais une mission de militantisme pour la développer, et qui plus est même associer l'idée que c'est caché par le gouvernement et par ses entités. Donc il faut faire avec.
Allez, je finirai par une ouverture qui fera peut-être sourire. Il y a au Vatican, en tout cas à Castel Gandolfo, qui est donc une résidence d'été des papes, près de Rome, un observatoire du Vatican, et son directeur ou son ancien directeur, José Gabriel Funes, avait fait une déclaration qui avait fait un petit peu jaser, c'était en 2008, où il disait « On peut imaginer dans un sourire, comme astronome je continue à croire que Dieu est le créateur de l'univers », mais il ajoutait que même si nous n'avons aujourd'hui pour l'instant aucune preuve, l'hypothèse d'une vie extraterrestre ne l'empêchait pas de dormir. Voilà, preuve qu'on peut avoir quelques croyances et pour autant garder un petit peu de raison. Merci beaucoup Jean-Paul Agut d'être venu et d'avoir pris le temps de nous expliquer tout cela. Le GEPAN, si par hasard vous avez observé des phénomènes étranges, que vous avez eu du mal à dormir ou bref que ça vous poursuit encore un peu, eh bien vous pouvez contacter le GEPAN et trouver tout simplement le site internet GEIPAN. Un grand merci à vous.
Merci.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la retrouver, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Thank you.